Alors, la sortie d'Égypte, justement. Ces peuples qui sont venus, s'installer chez les Égyptiens, en fait, les Égyptiens n'étaient pas très contents et ils ont fini par les expulser, figurez-vous. Les Hyksos ont été expulsés au XVIe siècle. Et ça a pu entraîner le départ progressif de certains groupes sémites qui étaient venus avec eux ou après eux. Les siècles suivants vont être marqués par des guerres. Au XVe siècle, les Égyptiens, notamment avec le pharaon Toutmès III, vont porter la guerre en Mésopotamie contre les Hourrites. Mais ensuite, ils vont être réduits à la défensive face à un autre peuple plus au nord qui s'appelle les Hittites. Alors, ces campagnes leur procurent également des prisonniers, astreints à des corvées. Et parmi eux, il y a des Sémites, ce qui expliquerait que les premiers chapitres de l'Exode, qui relatent l'oppression des Sémites en Égypte. Alors, on pourrait se dire, ils ne sont peut-être pas de ceux-là de la descendance d'Abraham ni de Joseph. Mais ce n'est pas du tout étonnant parce que, en fait, c'est dans la sortie d'Égypte qu'on nous parle, à la sortie d'Égypte, d'une masse de gens qui partent, d'une sorte de Macédoine de peuples qui partent. Et qui vont fusionner en un seul peuple, justement à travers l'expérience du don de la loi. En fait, c'est la loi donnée au Sinaï et l'expérience de la traversée du désert qui va fondre tous ces groupes sémites d'origine peut-être différente en un seul peuple. Vous voyez? Il y a ceux qui sont venus avec Joseph, probablement d'autres qui sont venus. À travers les invasions des peuples de la mer, plus tous les Sémites raflés et rasiés au cours des campagnes militaires égyptiennes. Voilà, en tout cas, la première mention écrite d'Israël, qui n'est pas de la Bible, apparaît au XIIIe siècle, au temps de Ramsès II, justement, sur une stèle. Écrite en hiéroglyphe, qui fait également état des royaumes d'Édom et de Moab, qui sont cités dans la Bible, et contre lesquels les Hébreux, dans leur sortie d'Égypte, sont venus se heurter. Vous vous souvenez, les guerres contre les Amorites et les Moabites. Alors, Moïse semble être un sémite élevé à la cour de Pharaon. Son nom est égyptien. En égyptien, c'est MES, un nom qui a été retrouvé sur une stèle. Il prend le parti de son peuple et fuit vers Canaan, vers la Palestine. Et l'épisode de la traversée. Alors, vous savez que en fait, on a deux traditions dans l'Exode. On a la tradition de la mer des joncs, qui est au nord, sur la route du nord, et puis de la mer rouge, qui est au sud. L'épisode de la traversée de la mer des joncs se situerait la route au nord. Il s'agit d'un lac qui a aujourd'hui disparu à cause du réchauffement climatique, pour le coup. Le lac de Sirbonide, qui était connu dans l'Antiquité. Et qui était un peu comme le lac de Neusiedl, hein, vous connaissez, ou le lac Balaton, qui sont en fait des lacs extrêmement peu profonds, avec une végétation, et qui, on nous parle d'un fort vent d'est qui souffle, et donc ces terres qui sont marécageuses, etc., pleines de plantes, etc. Il suffit que l'eau soit poussée par le vent pour qu'elle se mette à imbiber une zone un peu plus sèche et puis elle disparaît en somme. Donc le phénomène de la traversée de la mer Rouge, alors on peut le voir un peu comme dans le film de Cécile B2000, hein, évidemment c'est assez monumental, et on peut le voir d'une manière un petit peu plus naturelle, si on peut dire. Donc certainement que l'épisode. Là, on m'a raconté, il paraît qu'hier ou il y a quelques jours, il y a un surfeur qui s'est fait avaler par un cachalot.
Ah bon?
Donc, oui, vous avez vu la vidéo?
Oui.
Non, je n'ai pas vu, non.
C'est sur Internet,
il y a une
oui.
Vidéo,
il a été recraché, comme Jonas.
Il a été recraché.
Il a été recraché, oui.
Il a été recraché immédiatement.
Oui.
Alors, où ça?
En Australie, non?
Oui,
c'est ça.
Avalé,
c'est
des débris. Mais elle ne voulait pas le recracher.
Elle
n'en voulait pas.
Elle n'en voulait pas,
elle a recraché. Donc, elle l'a avalé, donc ça ne lui plaisait pas de la recracher.
On voit dans l'eau
pleine forme.
Non, il faut vraiment que je le voie, je ne l'ai pas vu encore. Oui. Non, parce que. Et alors, attendez, le plus drôle.
On a seul morceau.
On la voit, elle a jamais.
Non, mais rendez-vous compte que le plus drôle, c'est que hier, c'était. On sait ça depuis quoi? C'est avant-hier, quelque chose comme ça? Voilà. Et hier, justement, l'évangile de la messe du mercredi des quatre temps. C'était Jésus qui parle du signe de Jonas. C'était.
Et alors, un signe.
Et alors quand vous lisez l'histoire de Jonas, vous vous dites bon, c'est un gentil conte.
Hein.
Mais enfin, on ne peut pas s'imaginer.
Hein,
c'est quand même. Alors, il paraît qu'il y a eu le cas. Alors, j'ai entendu dire à partir de ça qu'il y a eu un cas plus ancien. Où la personne était restée plus longtemps dans. Alors, je ne sais pas comment on l'a fait. Enfin, en tout cas, maintenant, je pense que si vous faites de la plongée sous-marine, prenez un petit peu, un peu de poivre pour faire éternuer les baleines. Il paraît que le gars filmait un requin. Un requin blanc, je ne sais pas quoi.
Il a été avalé.
Et soudain, c'est la baleine qui a avalé le. Alors le requin, il a dû se dire, quelle chance.
Oui, la baleine ne devait pas aimer la caméra. Ça
oui,
une baleine, ça a des fanons.
Oui, alors ça devait être une sorte de cachalot ou un truc comme ça.
Oui, ouais. La baleine, ça filtre le plancton.
Oui, c'est ça.
Un cachalot, en revanche, c'est carnivore.
Oui, c'est ça. Mais alors, je ne sais pas si ça a beaucoup de dents.
Mais justement, il n'a pas fait croque quand il est passé.
Les cachalots sont des prédateurs des baleineaux.
Oui,
ils
oui.
Séparent la mer du, du baleineau et ils finissent par bouffer le baleineau. Hein.
Ah, oui, c'est ça.
Ce sont des carnivores des mers, c'est terrible.
Alors les pires, ce sont les orques, hein, parce qu'eux, ils ont plus des dents.
Oui, ils sont très méchants.
Ils mangent les baleines. Ça, c'est méchant.
Oui.
Mais de toute façon, bien qu'ils se nourrissent tous.
Bah oui, depuis le péché originel.
Ils se bouffent mutuellement.
Depuis le péché originel, on sait qu'on ne mange plus d'herbe. Hein.
Oui.
Mais vous voyez, ça, c'est. Si on pousse l'antispécisme jusqu'au bout, on pourrait aussi défendre les espèces végétales, après tout. C'est parce que c'est quand même injuste. Hein. Dieu, avant le péché originel, permet que l'on mange des plantes. C'est pas sympa pour les plantes.
C'est pour qu'on défende les virus.
Voilà.
Les virus, les plus petites molécules pourraient les défendre, pour qu'ils prolifèrent.
Oui,
oui. Enfin, Dieu, enfin un peu de boulot.
Oui, c'est ça.
Il y en a déjà pas mal, non?
On le dit.
Enfin, en tout cas, donc, pour continuer à revenir à notre histoire, à nos histoires. Alors, c'est également sur cette route du Nord, donc pas très loin de la mer, hein, que les Bédouins ont très souvent, et ça on le sait, ramassé des cailles exténuées par leur migration. Et notamment quand elles migraient et qu'elles avaient des vents contraires. Parce que la pauvre, pauvre volatine, il essaie d'avancer, mais. Et donc, il n'est pas impossible, là aussi, que l'épisode des cailles qui tombent du ciel soit pas non plus une sorte de conte d'enfant, ni non plus un miracle, etc. Mais simplement, en fait,
simplement.
Ce que la Providence. La providence a fait que les gens passant par là, des vols de cailles, enfin des cailles exténuées, soient tombées. Donc une grêle de cailles. Et puis. Alors toute rôtie. Oui, voilà. Alors c'est là où on pourrait se dire qu'il y a un enjolivement de l'histoire, mais en fait elle tombe pas rôtie, elle tombe bien. Elle est bien fatiguée. Et puis, là aussi, l'histoire de la manne, on sait maintenant qu'il y a des buissons dans le désert qui produisent cette espèce de sécrétion qui est comestible et dont les bédouins aussi se nourrissent dans leurs errances. Enfin, pas si errantes que ça, parce qu'ils vont certainement de lieu en lieu où ils savent qu'ils trouvent justement ces nourritures, ces boissons, ces choses-là.
Ils savent tout ça.
Alors, par contre, c'est là où on n'est pas sûr non plus de l'historicité de l'affaire, c'est que les épisodes des eaux de Meriba, vous savez, les eaux amères, et la manne elle-même, placeraient la route plus au sud, justement au niveau de ces lacs amers, saumâtres, et autour de ces steppes parsemées de tamaris, au pied desquelles on trouve cette nourriture un peu étrange qu'est la manne. Mais comme l'histoire nous dit aussi qu'ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert, ils ont pu faire, découvrir plusieurs aspects justement du désert. Alors, quant au mont Sinaï ou au mont Horeb, il faut reconnaître qu'on ne sait pas très bien où il est situé. Parce qu'il y a effectivement de très hautes montagnes, des vrais massifs assez importants. Et quant à délimiter telle ou telle montagne comme étant celle du Sinaï ou celle de l'Horeb, même en suivant les indications géographiques que donne le livre de la Genèse, de l'Exode, ou nombre, etc., on n'est pas certain de pouvoir bien les repérer. Alors, il y a des traditions. Alors, des traditions qui disent que le Sinaï est plutôt là ou plutôt là. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, il y a un monastère de Sainte-Catherine qui est un des endroits qu'on prétendu être le mont Sinaï. Voilà. Alors, c'est au cours de cette errance, justement, qui se prolonge, que ce peuple qui n'en est pas encore un, qui peut être un... des gens qui ont fui l'oppression à un moment et puis d'autres se sont agrégés à eux et va être structuré par le don d'une loi qui concrétise l'alliance et dont les dispositions sont mentionnées dans les livres ultérieurs qui sont Josué, premier et deuxième livre des rois, les psaumes, et puis Isaïe et Jérémie. En tout cas, l'alliance est attestée très nettement à la haute époque, à l'époque des juges, du deuxième livre des rois, des proverbes, des psaumes, qui sont des écrits anciens. Et il ne s'agit donc pas de reconstitution post-exilique, comme certains ont pu le dire. Par exemple, il y aurait 150 références à la loi et à l'alliance entre le XIIIe et le VIe siècle dans la Bible. Et donc, on ne peut pas dire que, du coup, le code de l'alliance et tout ça, c'est une reconstitution d'après le retour de Babylone. Parce qu'on est impressionné par le Deutéronome. Le Deutéronome, la seconde loi. Donc, il y a un certain nombre de textes qui sont effectivement des textes post-exiliques. De là à dire que tout a été refait après l'exil à Babylone, c'est un peu facile. Et en fait, non. On a une foule de références de l'ancien, justement, de la loi telle qu'elle va être redonnée par le livre de Deutéronome, déjà dans les livres les plus anciens de la Bible. Et l'importance plus grande de la loi après le retour d'exil s'explique, ce qu'on a appelé le deutéronomisme justement, deutéros en grec c'est deux, deuxième, s'explique tout simplement par le fait que la religion est la seule composante qui subsiste d'Israël après, justement, l'exil à Babylone, où tout le reste a été perdu. Alors qu'au temps de la monarchie, elle s'insérait, donc la loi religieuse, elle s'insérait dans toutes sortes d'autres documents juridiques, prescriptifs, des documents administratifs, diplomatiques, etc. Il y avait toute une bibliothèque, si vous voulez. Et finalement, dans leur exil à Babylone, les Juifs n'ont guère sauvegardé que ce que nous, on appelle aujourd'hui le Pentateuque, quoi, la loi religieuse. Et on peut dire qu'avant l'exil, Israël était une nation dotée d'un État, et après, c'est une nation qui n'a plus d'autre lien que sa législation religieuse. Et qui va être justement renforcé, solidifié. Si vous voulez, Israël, c'est un peu comme la Pologne après le troisième partage, au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui fait l'unité de la nation? Ça va être son attachement à la foi et à sa tradition religieuse. Pourquoi? Parce que l'État a explosé. Donc là, c'est la raison pour laquelle le catholicisme en Pologne est devenu aussi prégnant à cause de, justement, c'était le refuge de la nation qui n'avait plus d'État. Et même chose au retour d'exil, on est sous administration perse, après on est sous administration hellénistique, après sous administration romaine. La dynastie que les Romains octroient est en fait une dynastie de Bédouins qui ne sont même pas juifs. En fait, finalement, pour rester unis, on renforce les dispositions de la loi, et c'est là que se met en place cette espèce de, on pourrait dire, d'apartheid religieux qui fait que les Juifs se séparent de tous les autres pour préserver leur identité au milieu de ce magma de peuples qui coexistent dans tous ces empires. Assyriens, babyloniens, perses, hellénistiques, romains, et qui, en plus, du fait de la déportation, ce que je vous disais l'autre fois, le moyen qu'utilisaient ces grands empires, c'est quand on déporte un peuple, en général, on déporte les élites, puis la classe moyenne, hop, et puis il reste des braves gens pas très fufutes. Qu'on peut facilement manipuler en mettant une autre élite à la place, hein, qui resteront des esclaves, etc., et qui perdent finalement leur identité, parce qu'ils sont soumis à d'autres élites, qui viennent d'ailleurs. Donc on fait venir d'autres peuples qui viennent s'implanter. Et après, quand Cyrus va permettre aux Juifs de retourner à Jérusalem, ils retourneront en petit nombre. Hein, il y a une grosse communauté quand même qui est bien installée à Babylone, d'ailleurs les prophètes dénoncent ça, ils sont bien, ils ont bien prospéré, ils n'ont pas trop envie de risquer l'aventure en quittant leur fonction de banquier, déjà, à Babylone. Et donc c'est un petit nombre qui va retourner, et qui ne fait pas le poids face à tous les peuples qui sont développés sur place. Alors je vous disais aussi qu'une des idées de déplacer des peuples dans des peuples qui ont une conception, enfin qui sont des cités-États, une cité-État c'est petit, et donc qui ont des divinités qui sont plutôt des divinités de la terre ctonienne, comme on dit, d'autant plus quand on a des religions qui sont à dominante culte des ancêtres. En général, les ancêtres, ils sont plutôt dans le sol que dans le ciel. Et alors, à ce moment-là, vous déracinez un peuple, vous le déracinez de ses dieux. Et donc, il perd sa protection tutélaire, il perd sa tutelle, oui, sa protection, et vous mettez un autre peuple à la place, qui perd aussi sa protection, hein, parce qu'on déplace les peuples, comme ce qui gêne en général, et qui donc sont fragilisés sur le plan idéologique, et donc qui sont plus soumis au pouvoir central de la cité-État, qui est devenue l'Empire, en quelque sorte. Alors, peut-être qu'il y a des harmoniques à tirer à notre époque, hein, de cette manipulation, de cette homogénéisation des peuples, de déracinement. Hein. Vous avez peut-être vu qu'il y a un livre qui vient de sortir, qui s'appelle de Rémy Soulier, qui s'appelle « Racination », justement, qui est un éloge des racines.
Oui.
Voilà, mais vous voyez, les politiques du premier millénaire avant le Christ avaient déjà compris comment on dominait les gens en les manipulant, les déplaçant, en les déracinant de leur culture. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, si vous voulez. Et après, on verra l'implantation en Canaan.